Bonjour à vous. Un excellent sabbat. Le titre de mon message aujourd'hui, Gardez l'enthousiasme de la fête. Cette année encore, la fête des tabernacles a été une énorme bénédiction et multiples bénédictions pour ceux et celles qui l'ont observée. Quelle que soit, je dirais, leur condition de vie, quelle que soit leurs circonstances, ou même leur état de santé. Je connais des gens très malades qui ont célébré la fête chez eux, le cœur joyeux, reconnaissant. Mais c'est ça la fête, quelles que soient nos conditions. Qu'on ait été en présentiel, comme nous à Drummondville, qu'on ait été sur Zoom à la maison, ou au téléphone à la maison. Dieu a manifesté sa présence de plusieurs façons. C'est incroyable, et on s'en est parlé un peu durant la fête. Certains ont vu ces interventions et ont échangé avec nous, et ça a été tellement encourageant. Alors, Dieu a manifesté sa présence et ses interventions avant la fête, pendant la fête et après la fête aussi. Par exemple, nos frères et sœurs du Nouveau-Brunswick sont à l'écoute aujourd'hui. Eux avaient un sérieux problème parce que les conditions sanitaires n'étaient pas les mêmes. Et ils avaient beaucoup de paperasses à remplir puis de formules à demander pour être capables de traverser la frontière jusqu'au Québec. Et ils n'étaient pas certains de pouvoir revenir à la maison à la fin de la fête, les conditions étant peut-être encore changées. Alors, ça a été difficile pour eux. Mais Dieu est intervenu. Ils ont pu venir à la fête et retourner sains et saufs chez eux sans problème. Et ça a été la même chose pour Mme Pelletier. Elle est juste l'autre côté du Nouveau-Brunswick, au nord du Maine. Et c'était encore plus compliqué pour elle parce qu'il fallait qu'elle entre au Canada, qu'elle entre au Nouveau-Brunswick, qu'elle sorte du Nouveau-Brunswick pour venir au Québec. Il y avait énormément de complications, mais Dieu l'a bénie. Elle est venue avec nous, elle est retournée saine et sauve. C'est formidable. Et moi, j'ai eu un grand bonheur durant la fête, c'est qu'il y a un frère de l'Église qui vient de très loin, de l'extrême nord du Québec. J'avais vu sa photo déjà, mais je l'avais jamais rencontré. Et depuis plusieurs années, je voyais son nom sur la liste de ceux qui avaient l'intention de venir à la fête. Mais il ne pouvait pas venir. Et cette année, il est venu avec nous à Drummondville à la fête. Quand je vous ai dit que Dieu était intervenu là, de plusieurs façons, même en bénissant chez eux ceux qui étaient malades, et en permettant à des hommes comme ce monsieur-là, qui s'appelle George Petagomscom, ce n'est pas un nom francophone, bien sûr, parce que c'est un Inuit de l'extrême nord du Québec. Écoutez, lui, là, juste pour descendre de chez lui à Montréal, c'est 3 heures de vol. Ça vous donne une idée de où il demeure au nord. Ça a été vraiment un plaisir de le retrouver. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ne le connaissiez pas et qui avaient eu la gentillesse de l'inviter ou d'aller lui parler. Ça, c'est vraiment formidable. Et il est parti de la fête après le cœur joyeux et il retourne dans son monde seul. Il est seul là-bas à observer le sabbat et les fêtes de Dieu, à manger différemment que sa famille et les gens autour. Mais il tient le coup. C'est formidable. Alors, Dieu bénissait déjà et Dieu l'a béni. Un autre exemple que Dieu est intervenu de plusieurs façons, c'est qu'en arrivant à la fête, on a eu d'énormes problèmes techniques. Et c'était impossible à régler. Quand on a essayé de s'installer le soir, ça n'arrivait pas du tout. Et à un moment donné, les dirigeants ont dit, et M. Arsenault nous a dit, on demande à Dieu, mais là, on va se coucher. On va demander à Dieu, demain, c'est un autre jour. Et ça m'a fait penser quand Dieu dit, Dieu en donne autant à ses serviteurs pendant qu'ils dorment. Et c'est ce qui s'est passé. Le lendemain, la solution a été trouvée. Et on a pu diffuser dans les différents pays où la fête était diffusée, en Haïti, en Guyane, dans les Antilles. C'est vraiment formidable. Dieu était là. La solution était trouvée. Et durant la fête, Dieu a agi à travers ses serviteurs qui étaient présents là, comme témoignage pour les gens autour. Parce que sans qu'on réalise tout le temps, on est toujours les témoins de Dieu, les ambassadeurs du Christ. Et notre façon de nous comporter, elle a un impact sur les gens autour. Et dans un sens, même sans essayer de convertir les gens, notre façon de faire, notre façon d'agir, notre façon de considérer les gens, c'est un témoignage de la culture de Dieu. Et ça prépare le terrain pour quand Dieu va les appeler. Alors, ces enfants, à la fête, vous, et dans les autres sites de fête aussi, vous avez agi, je l'ai vu, selon Dieu, selon sa culture. Et je peux vous dire une chose, ça a été perçu par les gens. Ça a été goûté et ça a été apprécié. J'ai vu les commentaires. Et c'est pour ça que je veux le mentionner à l'intérieur de mon message aujourd'hui, pour que vous sachiez les fruits que produisent l'exemple qu'on donne. Reportez-vous à psaume 71, s'il vous plaît. Psaume 71. Psaume 71. En faisant ce que vous avez fait, en vivant selon la culture de Dieu, vous avez été les ambassadeurs de Christ, ses représentants. Le Christ, c'est notre modèle. Et il est question de lui dans le psaume 71 ici. Regardez, psaume 71, verset 5. C'est lui qui parle, et il parle à son père et de son père. « Car tu es mon espérance, Seigneur éternel. » Et le Père du Christ était son espérance quand il était sur la terre. Et le Père ne l'a pas abandonné. « Car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi, je me confie dès ma jeunesse. » Et c'est ce qu'on doit faire, nous. Et regardez le verset 7. « Je suis pour plusieurs comme un prodige. » « Like a wonder » en anglais. « Je suis pour plusieurs comme un prodige. Et toi, tu es mon puissant refuge. » C'est la même chose pour nous. On est des représentants du Christ, on suit le même chemin, on adresse le même genre de prière à notre Père. Le Christ était un prodige parce qu'il était très différent de tous ceux autour. Il était la personnification de la culture de Dieu, de son esprit. Il était un prodige parce que, quand vous regardez la définition d'un prodige, c'est un événement extraordinaire, un événement surnaturel. C'est ça un prodige, qui n'est pas quelque chose d'habituel, absolument pas, qui surprend par sa nature inhabituelle. Ça, c'est un prodige, un événement extraordinaire, surnaturel. Et nous, par notre façon anormale, humainement anormale d'agir à la fête, nous avons été comme des prodiges comme ça. Pour ceux autour, ils n'en revenaient pas de voir des gens qui les traitaient comme vous les avez traités. Ils ne connaissent plus ça maintenant. La société est tellement dégradée, tellement dure, tellement exigeante, que quand ils ont à servir des gens reconnaissants, remplis d'appréciation, pour eux, c'est un prodige. C'est quelque chose d'extraordinaire, d'inhabituel. C'est pour ça que je vous dis qu'en ce sens-là, on est comme notre grand frère. En faisant comme lui ferait, on devient pour eux des prodiges, des choses extraordinaires qu'ils ne voient plus souvent. Nous sommes, dans ce sens-là, des imitateurs du Christ. Et c'est ça qu'on doit être. On en a parlé à la fête. Allez à Ésaïe maintenant. Ésaïe, le chapitre 8. Le même phénomène est décrit ici. Et c'est une déclaration du Christ lui-même. Ésaïe, le chapitre 8. Et nous allons lire à partir du verset 17. C'est encore le Christ qui parle. Et qui parle de son Père. J'espère en l'Éternel. Il parle de son Père. Mais nous, on doit suivre le même chemin. Qui cache sa face à la maison de Jacob. Je ne sais pas si on réalise pleinement. Mais ce qu'on a vécu à la fête, ce qu'on a vécu, un, de connaître la fête et de pouvoir la célébrer, ça nous a été donné aux quelques-uns qui sont maintenant des Israélites spirituels, mais les 12 tribus de la nation d'Israël qui existent encore sur la terre aujourd'hui ne connaissent plus ces lois, ne connaissent plus ces fêtes-là. Alors, c'est pour ça qu'il dit, « J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. » Voyez-vous la valeur de notre appel, puis la valeur du fait d'avoir compris de plus en plus c'est quoi la fête, de l'avoir célébrée, d'avoir entrevu à partir de là d'autres choses que Dieu nous a révélées à sa fête. Alors le Christ dit, j'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob, mais pas à ceux qui l'appellent maintenant, ni à vous, ni à moi, ni aux quelques-uns qu'il va encore appeler. Il dit, je place en lui ma confiance. On fait comme le Christ. On place dans notre Père, notre confiance aussi. Lui, il plaçait sa confiance dans son Père. Regardez le verset 18. Et là, il décrit une scène qui m'a toujours touché. Et ça me fait penser quand le Christ au moment où il va amener son épouse à la salle du trône, ses petits frères et ses petites sœurs qui auront été fidèles, regardez comment il va se présenter devant son père pour les noces de l'agneau dont je vous ai parlé à la fête des tabernacles. « Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. » Il va se présenter avec vous et moi et il va dire à son père, « Me voici, de même que les enfants que tu m'as donnés, ceux qui ont tenu bon malgré les circonstances, ceux qui ont vécu dans toutes sortes de difficultés, mais qui ont tenu bon, qui ont demandé notre aide et qui l'ont eu. Voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. » Je vais plus loin maintenant. Voici pourquoi je vous dis ça. Nous sommes, le Christ et ses petits frères et ses petites sœurs, nous sommes des signes et des présages en Israël. Nous sommes des signes et des présages en Israël. Et je vais vous expliquer. De la part de l'Éternel des armées. Nous sommes des signes et des présages. C'est quoi un signe? C'est important qu'on définisse les choses pour qu'on comprenne ce que le Christ dit ici. Un signe, c'est ce qui identifie. Ce qui vient de. Par exemple, la fumée, c'est un signe du feu, hein? Ça vient du feu. Ça identifie le feu. Alors, quand on est signe de quelque chose, c'est qu'on fait partie de quelque chose. Ça identifie d'où on vient, ce qu'on est. Et c'est pour ça que le Christ dit ici que ses fidèles serviteurs aujourd'hui deviennent des signes de ce qu'il est et de sa culture. Deuxièmement, il dit, je reprends, nous sommes des signes et des présages. Qu'est-ce qu'un présage? Un présage, c'est une annonce de ce qui s'en vient. Et en vivant selon les lois de Dieu à la fête, nous avons été une annonce de la façon de vivre qui s'en vient sur toute la face de la terre. Dans ce sens-là, nous avons été, comme le Christ dit, des présages, une annonce de ce qui vient, des exemples de ce qui sera vécu dans le monde de demain par l'ensemble de l'humanité qui se verra enseigner les voies de Dieu par vous et par moi. Des présages, ce sont des avant-goûts, un avant-goût de la nouvelle culture dont je vous ai parlé, la culture chrétienne, la culture de Dieu. Qu'est-ce que le Christ avait dit? Soyez le sel de la terre. Soyez le sel de la terre. Donc, donnez du goût autour, que les gens avec qui vous venez en contact apprécient votre présence, votre patience, votre générosité, votre tendresse, votre douceur. C'est ça, être un présage de ce qui s'en vient, parce qu'on en fait déjà partie de cette culture-là. Qu'on soit dans l'Église depuis quelques mois ou quelques années, on est en train de développer cette culture-là. Et les gens autour doivent le sentir, doivent le voir, doivent être capables de l'apprécier. Alors que cette société-là, aux yeux de laquelle nous sommes des témoignages, des signes et des présages, cette société-là se corrompt de plus en plus. Et elle devient de plus en plus dure. Elle devient de plus en plus divisée. Elle se détruit. Ce n'est pas le monde de Dieu. Mais comprenez-vous que quand des signes et des présages du monde de demain sont là, les gens doivent être capables d'avoir un avant-goût de ce que sera le monde de demain. Sans qu'on parle, parce que les membres de l'Église ne doivent pas essayer de convertir les autres. En rien. C'est les ministres qui ont annoncé l'Évangile à la télévision, à la radio et toujours faire des conférences. Mais les membres ont à être des exemples, des lumières, non pas des trompettes, des lumières. Si quelqu'un nous demande raison de notre foi, on doit répondre avec logique, raisonnablement, mais pas plus. Alors vous, les membres de l'Église présents à Drummondville et dans les autres sites de fête à travers le monde, vous avez été des signes et des présages du nouveau monde qui approche, de la nouvelle civilisation dont je vous parle, de la nouvelle manière de vivre et d'interagir avec les autres que vous avez commencé à apprendre quand Dieu vous a appelé et que vous avez développé au cours des semaines et des mois et des années et que vous continuez à développer. dans un monde qui est confus, qui est malheureux, un monde de ténèbres. Comprenez-vous qu'à ce moment-là, c'est une petite lumière qui apparaît à travers ces ténèbres-là et que c'est un bon goût de sel sur une société qui souffre tellement? Il y a une explication de ça qu'on retrouve dans un passage de la Bible qui est très connu, dans 2 Corinthiens, le chapitre 4. 2 Corinthiens, le chapitre 4. Ça explique la même chose, mais dans d'autres mots. 2 Corinthiens, le chapitre 4. C'est l'explication de ce que je vous dis, ou la description de ce que je vous dis. Dans les termes que Paul a utilisés ici pour ça, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, on va lire les versets 3 et 4. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » Oui, qui sont encore sous la mante de la mort. C'est pour ça qu'il dit « ceux qui périssent ne connaissent pas la vérité. » Tant que Dieu ne les appellera pas, tant qu'ils ne se seront pas repentis, tant qu'ils n'auront pas passé par les eaux du baptême, ils seront encore sous la mante de la mort éternelle. Donc, en train de périr. C'est pour ça qu'il dit ici, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, qui sont encore sous la mante de la mort éternelle. Pour les incrédules, ils ne croient pas, ils ne peuvent pas croire, ils ne sont pas appelés. On ne peut pas leur reprocher, on ne doit pas non plus leur reprocher. Pour les incrédules, pourquoi ils sont incrédules? Dont le Dieu de ce siècle, Satan et ses démons, a aveuglé l'intelligence. Et Satan et ses démons s'emploient à mêler toutes les cartes imaginables, en inventant toutes sortes de religions anciennes et nouvelles, pour mêler les gens et les amener dans une confusion plus grande. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas, tant que Dieu ouvre pas leurs yeux, ils ne verront pas, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, qui est le signe parfait, le présage parfait et de Dieu et de sa culture. Verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Ici, on parle des ministres de l'Église qui doivent, eux, prêcher l'Évangile. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. C'est ça. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Alors, voyez-vous, les ministres de l'Église doivent être les serviteurs de ceux que Dieu appelle. Et ça, c'est une notion que les ministres de Dieu doivent comprendre et appliquer. Nous sommes d'abord les serviteurs. Nous ne sommes pas les dominateurs au-dessus des autres. Nous sommes serviteurs des autres. C'est exactement ce que Paul disait. Comprenez-vous pourquoi c'est la même chose en ce qui concerne les membres de l'Église? On doit être serviteur des autres autour de nous, sans essayer de les convertir, mais être serviteur là où on peut les aider, les encourager, les aimer, et ainsi de suite, comme le témoignage que vous avez donné à la fête. Je vais plus loin, verset 6. « Car Dieu, qui a dit, « La lumière brillera du sein des ténèbres », ce que nous devons être, ce que nous devons représenter, la lumière du monde de demain, « La lumière brillera du sein des ténèbres ». Il y a seulement un tout petit troupeau sur toute la face de la terre, sur les presque 8 milliards de personnes. On est 12, 13, 14 000 sur la face de la terre, un tout petit troupeau qui est une petite lumière dans ces ténèbres aussi épaisses. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs. Est-ce que ça ne vous a pas enflammé de découvrir la vérité, le but de la vie, les choses de Dieu, le plan qu'il a, fantastique, autant d'amour pour vous? La lumière brillera du sein des ténèbres. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et lorsqu'on vit comme le Christ, en étant aussi lumière pour ceux que nous rencontrons, c'est à la gloire de notre Créateur et de notre Sauveur. C'est ça qu'il dit ici. Alors voyez-vous qu'on est des signes dans ce sens-là et des présages par rapport à qui que ce soit que nous rencontrons. C'était vrai à la fête, mais ça doit être vrai ensuite dans notre vie courante de tous les jours, où on est revenu maintenant pour continuer le travail d'ici le retour de Christ. À la fête des tabernacles, vous avez été des ambassadeurs de Christ. On a eu un sermon là-dessus à la fête, formidable. Vous avez été des ambassadeurs du Christ. Vous avez été les signes tangibles, perceptibles, de la présence du Christ. Pourquoi? Parce que le Christ est avec vous. Le Christ est en vous. Et en agissant comme lui, vous avez été les signes tangibles, perceptibles pour les gens autour de la présence du Christ. Même si c'était pas publié, là, et même si les gens ne réalisaient pas l'immensité de ce qui se passait autour d'eux, vous avez été les signes tangibles de sa présence en vous, par votre comportement, par votre attitude. Comment vous l'avez fait? Je vais vous décrire quelques événements pour vous montrer comment vous l'avez fait. Si vous l'avez fait, si vous l'avez pas fait assez, ben, à une autre fête des tabernacles, mettez sur votre programme de mettre ces choses-là en pratique. Et vous allez devenir encore davantage une lumière pour Dieu. Voici quelques exemples. Exemple de patience que vous avez manifesté. Par exemple, à Drummondville, il y avait beaucoup d'employés à l'hôtel qui étaient nouveaux. Parce que les entreprises, en particulier les entreprises hôtelières, ont énormément de difficultés à recruter du personnel. Alors, il y avait plusieurs des employés là qui étaient nouveaux au travail, donc susceptibles de se tromper et de pas comprendre tout ce que vous leur demandiez ou tout ce qu'ils avaient à faire. Et il y a eu des erreurs. Mais j'ai vu les membres de l'Église être patients avec eux, et même les remercier après, quand finalement l'employé au comptoir avait fini par comprendre ce qu'elle avait à faire et tout ça, la remercier de ce qu'elle avait fait. Ça, c'est la voie de Dieu. Patience. Alors, vous l'avez fait, je l'ai vu. Des merci. Surprenant, il y a plusieurs qui m'ont dit, on n'est pas habitué de se faire remercier. Et vos gens nous disent merci de tout ce qu'on fait. C'était comme un autre monde. Ben oui, c'était un autre monde. C'était la présence du monde de Dieu. Ces gens-là, au contraire, dans le monde froid et dur dans lequel on vit, se font rejeter, se font mépriser, se font commander toutes sortes de choses par ceux qui paient. Mais quand quelqu'un arrive et dit merci pour tout, les gens sont touchés et ils goûtent quelque chose de différent, totalement. Il y a des serveurs, des serveuses qui m'ont dit, Monsieur Brochu, ça arrive à peu près jamais maintenant que les gens nous disent merci. Ça, ça a été un témoignage et un signe. Ils ont été surpris et remplis d'appréciation aussi de se faire traiter avec respect, de se faire dire vous. Se faire dire vous, c'est un signe de respect. Ça a été rejeté presque totalement dans la société de confusion, dans la société qui se dégrade de plus en plus. Comme si c'était mal de dire vous à quelqu'un. Absolument pas. Les gens l'ont apprécié là-bas parce que c'est un signe de respect envers la personne. Il y a une personne qui est là, qui vous sert, que vous ne connaissez pas, qui fait des efforts, et vous allez dire, tu, donne-moi telle chose, faites... Non. Voulez-vous, s'il vous plaît, me donner telle chose? Voyez-vous? Et merci après. Ça, c'est la culture de Dieu. Ça, c'est la culture de Dieu. C'est intéressant parce que plus d'une fois, il y a des serveurs ou des gens de l'hôtellerie qui m'ont dit, ce serait tellement facile et agréable si tous les clients qu'on avait étaient comme ceux de votre groupe. Ce serait tellement bon, tellement agréable, je comprends. Pour eux, ça a été une semaine plus légère que d'habitude. Un autre exemple d'être le sel de la terre. Considération pour les plus humbles. Et j'ai vu des membres de l'Église avoir considération pour les plus humbles qui travaillaient autour. J'ai été témoin, par exemple, d'une personne le matin qui a salué le monsieur mexicain qui ramassait les détritus, les déchets dans le stationnement. C'est pas le maire de la ville, c'est pas le premier ministre de la province non plus, OK? C'est un monsieur mexicain qui a ce moyen-là pour gagner sa vie. Quelqu'un s'est arrêté pour le saluer. Considération, respect. Il a cessé à ce moment-là d'être personne, d'être invisible. Il a été considéré comme un être humain. On l'a salué. Un client de l'hôtel l'a salué et lui a parlé. Formidable. Vous auriez dû voir la réaction puis le sourire. Donc, je suis quelqu'un. C'est ça que ça voulait dire. Je suis quelqu'un puis on me considère. Formidable. J'ai entendu aussi un membre de l'Église dire merci dans l'hôtel à un monsieur qui ramassait, qui faisait le ménage dans les corridors, là. Un vieux monsieur qui était, il avait l'air malade un peu, et la personne l'a remercié de garder ça beau. Vous avez dû voir le sourire. Ah, il dit, on fait ça pour vous autres. Voyez-vous, il se trouvait une raison pour le, je suis votre serviteur. Mais la personne qui lui a dit ça, lui a dit aussi qu'elle était son serviteur, parce qu'elle le considérait. C'est notre façon d'apprendre, c'est notre façon de faire. Et vous savez, ces gens vivent présentement de grandes inquiétudes, parce que leur situation est instable, leur horaire de travail a été coupé énormément. On voit pas ça quand on arrive, on voit les gens travailler à l'hôtel, mais il y a des gens qui sont là deux jours semaine, quelques heures par semaine maintenant, parce que tout est réduit. Et quand on a quitté l'hôtel, c'est tombé très, très tranquille. Nous, on est parti une journée plus tard. Vous auriez dû voir le stationnement. Et vous auriez dû voir dans l'hôtel, il n'y avait pas beaucoup de bruit. Alors, ces gens-là, qui nous ont servi si généreusement, vivent des inquiétudes avec des horaires de travail réduits et un futur incertain. On a parlé avec des femmes de chambre, c'est ce qu'elles nous ont dit. C'est très difficile pour eux, seulement quelques heures par semaine. Alors, j'ai bien aimé quand la direction de l'Église à la fête a décidé de faire des grandes cartes de remerciement. Hein? On nous a demandé de les signer et peut-être de mettre un petit mot. Il y avait une carte pour les cuisiniers, les cuisinières. Il y avait une carte pour les femmes de chambre. Il y avait une carte pour la direction de l'hôtel. Alors, il y avait des cartes spécifiques pour tous ceux qui nous ont servi. On mettait un petit mot et ils l'ont remis à ces gens-là. Avec des chocolats. Ça arrive jamais non plus. C'est encore du jamais vu pour eux. On a vu ça. C'est formidable. Et un autre élément que je vous donne en terminant au sujet des exemples que j'ai vus, des personnes qui ont été celles de la terre et qui ont été des présages, des signes de la présence de Dieu. Pour une ou deux personnes, peut-être plus, mais au moins une ou deux personnes, quand les gens sont retournés chez eux, il y a une personne qui a réalisé que les repas qu'elle avait achetés, les trois repas qu'elle avait achetés d'avance, n'avaient pas été facturés sur sa facture. Donc, elle a payé sa facture au complet, sauf les trois repas qu'elle avait pris. Alors, cette personne-là, étant enfant de Dieu, connaissant les lois de Dieu, a recontacté l'hôtel pour dire « Je m'excuse de vous déranger, mais j'aurais besoin de vous rembourser. » Ça a dû sonner bizarre un peu aux oreilles des personnes concernées. La personne a dit « J'ai pris trois repas, mais vous ne me les avez pas chargés. Je pensais que c'était compris dans ma facture, mais ils ne sont pas là. J'aimerais vous les payer. » J'imagine que la personne a tombé en bas de sa chaise, parce que ça n'arrive pas souvent, là. Parce qu'ils vont voir plus souvent quelqu'un qui va partir avec les serviettes de douche ou avec d'autres choses. Que de dire « Vous m'avez pas suffisamment chargé, je vous dois quelque chose. » Mais ça, c'est la culture de Dieu. C'est impossible dans le monde aujourd'hui, sauf de la part des enfants de Dieu. Et c'est pour ça que les gens nous ont laissé entendre que c'était pour eux, toutes ces choses-là, du jamais vu. Mais en même temps, du tellement bon. Du jamais vu, mais du tellement bon. Alors, voyez-vous, faut continuer. Surtout à l'époque de la fin où on est, à développer dans nous cette culture de Dieu, puis à la mettre en pratique. Elle est complètement différente de celle du monde. Ces gens-là l'ont vu, ils ont goûté. Et quand Dieu va les appeler, ils vont se rappeler de ces gens qui étaient différents des autres, qui étaient toujours bien habillés, qui se présentaient bien, qui s'excusaient, qui demandaient des services en vous voyant les gens, qui les remerciaient et tout ça. Ils vont se rappeler qu'il y avait un lien entre ce qu'ils étaient venus faire là et ce qu'eux commencent à comprendre maintenant, quand Dieu va les appeler, et qu'ils vont pouvoir commencer eux aussi à célébrer la fête des tabernacles. Le temps vient où tout ce que la Bible prédit va arriver. On le sait parce que ce que la Bible avait prédit jusqu'à maintenant, ça s'est réalisé exactement comme Dieu l'avait annoncé. Et quand Dieu passe à l'action, vous le savez, par expérience peut-être dans vos vies, mais on le sait par l'histoire d'Israël et parce que la Bible nous montre, quand Dieu passe à l'action, les choses arrivent très rapidement. On l'a vu avec le déluge. C'est un bel exemple de ça. Quand Dieu décide de passer à l'action, il n'y a pas de retour, ça se fait vite et ça se fait puissamment. Après que Noé, on s'y reportera pas, mais après que Noé a eu terminé sa prédication qui avait été commandée par Dieu, et après que la porte de l'arche a été fermée, non pas par Noé, mais par Dieu, après que la porte de l'arche a été fermée, la pluie s'est abattue sans arrêt, tel qu'annoncé. Ça a été un événement soudain. Comme la soudaineté des événements qui vont bientôt frapper. On a été surpris un peu par la force de COVID et l'étendue de COVID-19 qui a frappé toute la Terre. Mais attendez de voir le reste de l'histoire. La soudaineté par laquelle Dieu intervient, elle est vraiment frappante. Elle ne devra pas nous surprendre. On devra le remercier de ça. Parce que les choses avancent. Il y aura une soudaineté dans les événements. Il y a des choses qui vont s'enclencher dans le mouvement rapide déjà, des choses qui se passent. Il y a des choses qui vont s'enclencher et qui vont aller encore plus vite. À travers tout ça, bien sûr, nous, on reste des êtres humains, là, faits de chair et de sang, avec nos émotions. C'est normal. Et c'est normal que dans tout ça, en tant qu'humain, on ait des hauts, des bas, des creux de vagues, des doutes, des questionnements. C'est absolument normal. Mais quand ça arrive, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, ou quand l'ennemi veut essayer de nous faire douter, à ce moment-là, il y a une chose à faire. Et cette chose-là, elle est essentielle. De demander aussitôt au Christ de mettre en nous sa foi pour qu'on voit les choses comme lui les voit. Ma foi, à moi, elle n'est pas importante. Elle ne vaut pas grand-chose. C'est la foi du Christ qui compte. Et on voit dans la Bible que c'est le Christ qui donne la foi, sa foi, et qui l'amène à la perfection à travers des événements qu'il nous donne de vivre. Et si on est suffisamment proche de lui et de notre Père, il nous soutient, il nous console, il nous encourage, il nous donne ce qu'on a besoin d'avoir, ou il nous donne d'être patient pour attendre la réponse, mais de tenir bon quelles que soient les circonstances. Alors, voyez-vous, quand il y a du doute ou quand il y a des périodes creuses de questionnement ou quoi que ce soit, c'est vers le Christ, celui qui donne la foi et qui l'amène à la perfection qu'on doit se tourner. Absolument. Demandez-lui de vous donner sa foi. Demandez-lui de vous donner aussi sa détermination. Le Christ était déterminé. Il n'a jamais reculé. Nous, on a besoin de l'apprendre. Parce que humainement, parfois, on peut être porté à vouloir reculer à certains moments donnés. Mais le Christ, lui, n'a jamais reculé devant l'épreuve, devant quoi que ce soit. Nous, on n'est pas parfait encore. Et parfois, on va être porté à reculer ou à perdre un peu de terrain. Mais si on retourne tout de suite vers lui, en lui demandant sa foi, sa détermination, il va nous la donner. Ça dit bien dans les textes, « Ayez les yeux sur lui, sur celui qui donne la foi et l'amène à la perfection. » Alors, comprenez-vous que c'est lui qui vous façonne, qui me façonne à travers les événements qu'on a à vivre et qui va nous mener à terme, là où on doit aller. Demandez-lui aussi de vous donner une autre qualité qu'il a, son courage. Parce que ça en prend du courage maintenant et ça va en prendre encore dans les événements qui approchent. Si vous comptez sur votre courage, si je compte sur mon courage, pauvre petit moi, parce que mon courage est un courage humain qui est plus faible que faible, comme le vôtre. Par contre, si je demande à mon grand frère, qui est mort pour moi, de me donner son courage pour m'amener à la perfection, et m'amener au but pour lequel j'ai été appelé, comprenez-vous que ça change tout. Il dit, demandez et vous recevrez. Souvent, on ne demande pas. On a besoin, mais on ne demande pas. Demandez le courage dans ces circonstances-là. Et il va vous le donner graduellement. Il va vous aider à passer à travers. Les yeux sur lui. Demandez aussi, parce qu'on a besoin d'avancer spirituellement et de soutenir l'œuvre, demander son zèle. S'il y en a un qui est un modèle de zèle parfait, c'est le Christ. Qu'il mette en nous aussi son zèle. Ça me fait penser au fameux verset que M. Meredith aimait beaucoup. Je pense que c'était son verset favori. Je vois des signes de tête. Vous pouvez l'écrire déjà dans votre livre. Galates 2, verset 20. Quand l'apôtre dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Donc, si le Christ vit en moi, le chef puissant de l'armée de l'Éternel, lui va combattre pour moi. Mais il faut que je le sache. Et que je lui demande. Et que je fasse ma part. Lui va faire le reste. C'est formidable parce que c'est une garantie qu'il va nous rendre parfaits au bon moment. Écoutez, rappelez-vous de ce que Moïse a dit aux Israélites à un moment précis de leur voyage. Quand ils étaient devant la mer Rouge, là, et ça sentait les chevaux, parce qu'il y avait l'armée de Pharaon qui était en arrière avec toute la cavalerie et toute l'armée puissante qui était là. Il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas de sortie, pas d'espoir, humainement parlant. Pas d'espoir, il était apeuré. Qu'est-ce que Moïse leur a dit? Vous pourrez aller voir dans Exode 14, versets 13 et 14. Exode 14, versets 13 et 14. Je pense qu'on va y aller, ça vaut la peine. Parce que ça, c'est un principe qu'on doit appliquer, nous. Exode 14, versets 13 et 14. Commençons au verset 11. Verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils s'en venaient les attaquer. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. On aurait eu peur, nous aussi. Ils crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Là, ça, c'était humain. Ils n'ont pas tourné les yeux vers Dieu. Ils ont trouvé le moyen d'accuser Moïse à la place. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. C'est faux. En plus, ils mentaient. Ils n'ont jamais dit à Moïse, quand ils ont sorti d'Égypte, laisse-nous ici. Ils étaient contents de sortir. Ils ont sorti la main levée quand ils ont sorti le lendemain de la Pâque. Hein? Ils étaient contents de sortir. Là, ils disent, non, c'est pas ça qui est arrivé. Ils ont menti. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Il n'y a personne qui leur avait dit qu'ils allaient mourir au désert. Dieu leur avait promis une terre promise. Et il était en train de les amener là, malgré les obstacles qu'il y avait en cours de route. Mais ils ont oublié que Dieu, c'était lui qui avait fait les 10 grands miracles pour les sortir d'Égypte. Et qu'il était encore capable de faire d'autres miracles pour les amener en terre promise. Comme il va faire encore de grands miracles pour vous et pour moi, si on met nos yeux et notre espoir sur lui, plutôt que dans les humains ou les circonstances. Il va nous mener à terme. Et regardez le verset 13, là où je vous amène. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien. Arrêtez de vous faire peur, d'avoir peur, d'avoir peur. » C'est inquiétant, mais il y en a un qui est plus grand que vos inquiétudes, qui vous a amené jusqu'ici. Comme vous et moi, écoutez, Dieu nous a amené, vous et moi, jusqu'ici dans notre vie. Et il y a certaines personnes ici qui ne seraient même pas là si Dieu ne les avait pas appelées. Et qui n'aurait pas les mêmes circonstances de vie que vous avez si Dieu ne vous avait pas appelé. Et qui n'aurait pas le même espoir que vous avez s'il ne vous avait pas appelé. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Et c'est pour ça que nous aussi, on doit craindre rien, mais regardez ce que Dieu a fait pour nous et ce qu'il va faire. Restez en place. En d'autres termes, Québécois, restez tranquille. Restez tranquille. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez, les problèmes que vous voyez autour aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Toutes les difficultés qu'on a et qu'on aura d'ici le retour de Christ vont disparaître à un moment donné et ça ne reviendra plus. Et Dieu va nous donner de passer à travers ça. Et regardez le verset 14, c'est le verset clé que je vais vous donner. Moïse fait cette déclaration tellement encourageante. « L'Éternel combattra pour vous. » Il n'a pas dit « battez-vous » puis essayez de faire votre possible. Là. Non, il dit Mettez votre confiance en Dieu et vous allez voir ce qui va se passer. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de vous faire peur. Gardez le silence puis attendez de voir sa délivrance. Allez dans Philippiens chapitre 1, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 1. Un très beau passage que j'ai toujours trouvé particulièrement encourageant et qui revient au même point que je suis en train de vous expliquer. Philippiens 1 et le verset 6. Paul dit ceci, « Je suis persuadé. » C'est pas « je pense que ça va arriver de même ». Non, il dit « je suis persuadé, je suis convaincu que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, c'est pas vous qui avez commencé en vous cette bonne œuvre. C'est le grand patron de l'univers qui a décidé un jour de vous appeler, vous, personnellement, au milieu de presque 8 milliards de personnes, pour vous révéler la splendeur de la vérité, pour vous montrer le chemin à suivre et pour vous donner un paquet de promesses encourageantes qui vous disent que vous allez y arriver par sa puissance si vous faites simplement ce que vous avez à faire, ce qu'il vous demande de faire. Paul dit, je suis persuadé, je suis convaincu, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, et cette bonne œuvre, c'est de vous rendre parfait, puis de vous amener à devenir des êtres spirituels, membres à part entière de sa famille. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Mais oui, c'est lui qui va la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ, le jour où le Christ paraîtra, qu'il reviendra sur la terre. Ça, c'est tellement encourageant. C'est bon d'y revenir. Moi, je l'ai souligné en vert, parce que dans ma Bible, quand je vois une promesse de Dieu, je souligne en vert. Je les identifie facilement après ça quand j'y reviens. Alors ça, c'est une autre promesse tellement encourageante et absolument fiable. Vous savez, quand le Christ va revenir, c'est d'ailleurs écrit très clairement, quand le Christ va revenir, ça va surprendre le monde entier. Le monde entier sera totalement surpris, pris à court, mais pas les chrétiens. Pas les chrétiens. Pas ceux qui sont vraiment convertis. Pas ceux qui s'efforcent d'être fidèles, même s'ils ne sont pas parfaits, là, mais qui continuent. Ceux qui sont zélés pour vaincre, pour soutenir l'œuvre, ceux-là ne seront pas pris par surprise. Absolument pas. Sauf qu'il y en aura dans l'Église qui seront pris par surprise. On le voit dans les textes. Ceux qui ne prennent pas vraiment au sérieux leur appel ou qui ne font pas ce qu'ils ont à faire pour se préparer. S'ils ne font pas ce qu'ils ont à faire pour se préparer et qui est clair dans la Bible, ils ne seront pas prêts. Tout simplement. Mais ceux qui seront prêts ne seront pas pris par surprise. Et ils vont comprendre, en temps voulu, les événements qui vont se passer et ils vont savoir quoi faire à ce moment-là. Ça leur sera donné par celui duquel ils seront très proches. Par celui qu'ils tiendront par la main. Parce qu'ils auront été proches de lui, qu'ils se seront préparés. Donc, ce sera très différent pour les chrétiens zélés, enthousiasmés, qui persévèrent à changer, même s'ils ne sont pas parfaits. Eux vont être prêts. Ils auront été préparés. Pourquoi? Parce qu'ils auront marché avec Dieu de plus en plus. Comme la Bible dit, il faut marcher avec Dieu, être proche de lui, comprendre ce qu'il nous demande, le mettre en pratique. Parce qu'ils auront d'abord cherché le royaume de Dieu, et sa justice. Oui, on attend le royaume de Dieu. On a hâte de faire partie de sa famille. Ça, c'est bien. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a et sa justice. Parce qu'on ne peut pas simplement rêver du royaume, ce qui n'est pas mauvais, et ne pas chercher à vivre selon la justice de Dieu, à vivre selon les lois de Dieu. Autrement, ça ne nous donne rien d'espérer le royaume si on n'est pas en train de développer dans notre vie la culture de Dieu, en observant ses lois, au mieux, avec son aide. Voyez-vous? Un ne va pas sans l'autre. Il faut que je cherche le royaume et la justice de Dieu. Je me rappelle, M. Appartient avait tellement insisté à quelques occasions là-dessus. N'oubliez pas le « et » là, dans Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. On ne peut pas dissocier les deux, si vous voulez. Alors, il faut marcher avec Dieu pour être prêt. Il faut chercher premièrement le royaume et mettre sa justice en application dans nos vies. Il faut parler à Dieu chaque jour, dans nos prières, avec zèle. Et c'est pas toujours facile. J'en ai déjà parlé. Parfois, c'est un effort. C'est un travail, des fois, de parler à Dieu en prière. Parfois, les idées viennent pas. C'est normal, vous êtes pas seul. Dans ce temps-là, ça devient un travail. Et parfois, on peut s'aider en allant lire un psaume, puis en l'expliquant à Dieu, ou des choses comme ça, se trouver des petits moyens pour parler à Dieu de toutes sortes de choses. Parler à Dieu régulièrement, étudier chaque jour sa parole. Parce que ça, c'est la nourriture. C'est ce qui nous tient en vie spirituellement. C'est notre alimentation. Quand on prie Dieu, on parle à Dieu. C'est nous qui lui parlons. Mais quand on étudie sa parole, c'est lui qui nous parle. Et on a besoin qu'il nous parle. On a besoin de compter sur lui, comme le Christ comptait sur Dieu. Et bien sûr, jeûner régulièrement. Ceux qui font ça vont être capables de comprendre. Vont être capables de comprendre et de reconnaître les temps dans lesquels nous entrons. Et qui vont devenir de plus en plus confus pour l'ensemble du monde. Mais pour nous, il faudra voir le chemin à suivre là-dedans et comprendre ce qui arrive, pourquoi ça arrive et où ça nous mène. Tout en ne nous laissons pas gagner par la peur ou l'inquiétude, même si c'est inconfortable et si certaines peurs viennent. Dieu va s'occuper du reste, comme il s'est occupé des Israélites en les faisant traverser la mer Rouge, parce que c'est ce qu'il avait décidé. Alors, ceux qui font ce que je viens de vous dire vont comprendre les situations. Ils vont reconnaître les temps. Ils vont reconnaître les événements. Il y a d'autres événements qui vont s'ajouter bientôt à COVID-19. Certains vont peut-être être encore plus frappants que COVID-19. Il faudra être capable de reconnaître ces événements-là en sachant que c'est ce qui devait venir et que si ça nous a été montré d'avance, comme je fais maintenant, c'est pas pour nous faire peur, mais pour nous rassurer qu'un Dieu souverain sur la création qui mène les choses à terme et qui va prendre un soin spécial de ses enfants fidèles, même à la toute fin, pour les amener à un lieu de sécurité pour terminer leur formation. Formidable. Alors, ceux qui font ce que je vous dis vont comprendre et vont reconnaître les événements. Ils vont reconnaître aussi, parce qu'il y en aura d'autres, les signes prophétiques annoncés qui sont dans la Bible. Il y a certains signes qu'on n'a pas encore saisi et qu'on va comprendre lorsqu'on sera rendu. Alors, nous allons être capables de comprendre ces signes prophétiques-là de la part de Dieu. Et ceux qui vont être proches de Dieu, qui vont encore, malgré leur faiblesse, travailler à vaincre et à supplier le Christ de mettre en eux sa foi, son courage, sa détermination, son zèle, ceux-là vont saisir les avertissements et les informations qui seront données en temps et lieu par les ministres de Dieu aux membres de l'Église, par ceux qui sont en charge. Parce que Dieu a un gouvernement, et Dieu fonctionne toujours par son gouvernement, de haut en bas. Et on a eu un sermon superbe à la fête, justement à ce sujet-là, que Dieu nous donnerait, le temps venu, ce que nous aurons besoin de comprendre pour savoir quoi faire. Ça, j'ai trouvé ça superbe. C'est le sermon que j'ai traduit de M. Stafford, là, qui était une perle, un très puissant sermon et qui allait exactement dans ce sens-là. Et à deux reprises, je me rappelle, dans le sermon, M. Stafford a dit, « Dieu va montrer à ses serviteurs fidèles, en temps voulu, ce qu'ils ont besoin de savoir au moment où ils auront besoin de le savoir. » Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on sache quoi faire à ce moment-là. Faut pas s'inquiéter d'avance. Avec le sermon de M. Stafford, ce que je vous donne aujourd'hui, tout ça, c'est une préparation pour les bouleversements plus grands, pour les turbulences encore plus grandes qui approchent, pour qu'on ait un cœur paisible, même au milieu des tempêtes. C'est ça. Et c'est possible de le faire, d'avoir un cœur paisible, même au milieu des tempêtes. Pourquoi? Parce que on tient le Christ par la main, parce qu'on est proche de lui, parce qu'on lui demande son aide, parce qu'on se nourrit de sa parole, où il est dit, dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Et quand ce sera le temps d'aller ailleurs, nous entendrons la voix du Christ symboliquement. Nous comprendrons que c'est le temps de faire certaines choses particulières. « Mes brebis, mais il faut être ses brebis, c'est ses brebis. » celles qui font ce qu'il veut, celles qui sont proches de lui, celles qui lui ressemblent de plus en plus, celles qui sont les signes et les prodiges, celles qui sont les ambassadeurs de sa personnalité et de sa culture. Elles vont le suivre. Les vrais serviteurs de Dieu, pas ceux qui sont en apparence et qui changent pas tellement, qui s'accommodent d'être contents de savoir ce qui vient, pas ceux-là. Mais les vrais serviteurs de Dieu, par son esprit, vont comprendre des choses d'importance majeure et salutaire le moment venu, et ils sauront quoi faire et quand faire. Reportez-vous à Proverbes, le chapitre 28. Proverbes, chapitre 28. Et nous allons lire le verset 5. Proverbes 28 et le verset 5. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Et ceux qui font le mal ne comprennent pas non plus ce qui vient. Et ne comprennent pas non plus le sens des événements. Et les gens livrés au mal, qui ne sont pas appelés, qui ne pratiquent pas les voies de Dieu, ne comprennent pas ce qui s'en vient, ne comprennent pas les prophéties. Parce que Dieu donne son esprit à qui? Son esprit pour comprendre. À ceux qui observent les lois de Dieu. Acte 5, verset 32. Acte 5, verset 32. Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Alors comprenez-vous que ceux qui n'obéissent pas ne comprennent pas. Ils n'ont pas son Saint-Esprit. Et ceux dans l'Église qui ont eu le Saint-Esprit ou qui ont encore le Saint-Esprit, mais qui n'ont pas leur cœur dans l'œuvre ou qui n'ont pas leur cœur à changer et qui n'ont pas de zèle pour l'Église, pour soutenir l'œuvre, pour soutenir les frères et sœurs, pour encourager, pour servir, comprenez-vous qu'à ce moment-là, leur compréhension diminue parce qu'ils mettent moins en pratique les lois de Dieu. Et si on met moins en pratique les lois de Dieu, quand on les connaît, c'est que l'Esprit de Dieu se retire de nous graduellement. On comprend moins bien. Et on en vient à se demander, comme j'ai vu malheureusement dans le passé, comment ça se fait que j'ai suivi ces lois-là, moi? Comment ça se fait que j'ai donné de la dîme à l'Église dans le passé? J'aurais dû garder cet argent-là pour moi. J'ai déjà entendu ces réactions-là de la part de personnes qui ont été dans l'Église, sincèrement, mais qui ont perdu leur route. Pourquoi? C'est simple, même si je connais pas le détail de leur vie, je sais qu'ils ont cessé de pratiquer les lois de Dieu, et par le fait qu'ils ont cessé de pratiquer les lois de Dieu, ils ont cessé de comprendre. À tel point que ce qu'ils avaient fait avant n'avait plus vraiment d'importance ou de sens pour eux. C'est comme ça. Comme la personne qui a jamais été appelée. Pour la personne qui a jamais été appelée, ça fait pas de sens ce que nous faisons. Ne pas travailler le samedi, payer nos dîmes, donner des offrandes, ne pas manger de porc, toutes ces choses-là, ne pas célébrer Noël ou les anniversaires ou toutes ces choses-là. Pour la personne de l'extérieur, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Et ça se comprend. On ne peut pas non plus leur reprocher. Mais tout ça va ensemble. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Ils ne peuvent pas le comprendre. Ou ils en ont perdu la compréhension s'ils ont commencé à faire les choses à leur goût. Mais regardez le contraire, c'est là-dessus que je veux vous attirer votre attention. Mais ceux qui cherchent l'Éternel, qu'est-ce qui leur arrive? Ils comprennent tout. Pas tout d'un coup, mais ils comprennent tout quand le temps est venu qu'ils comprennent. Dieu donne progressivement de comprendre, hein, c'est ça? Et ce sera la même chose en ce qui concerne le départ pour le lieu de sécurité. Quand ce sera le temps de comprendre, Dieu va donner à ses serviteurs fidèles de comprendre ce qu'ils doivent comprendre au moment où nous serons. C'est le principe ici. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout ce qu'ils doivent comprendre ou ce qu'ils ont besoin de comprendre là où ils sont rendus, tout simplement. Et c'est fascinant de voir, moi j'aime ça en tant que ministre, de voir quelqu'un qui vient à l'Église, qui commence à comprendre des choses, qui en découvre d'autres, qui s'émerveille, qui en trouve une grosse à changer, puis là il s'émerveille pas, parce que ça va être dur de changer ça, ou j'ai tellement fait ça longtemps, ou vous savez. Mais c'est les défis que Dieu nous donne, puis il nous aide à passer à travers. Mais plus on le fait, plus Dieu nous donne de comprendre. Et c'est formidable. Et ce faisant, si nous sommes vraiment les serviteurs de Dieu, que nous maintenons à terme dans ce sens-là, nous allons devenir comme les ancêtres des Finlandais. Ah, là, je vous surprends, hein? Ça, je vous l'ai dit comme ça pour que ça vous surprenne un peu. Allez dans 1 Chronique, chapitre 12. Premier livre des Chroniques, le chapitre 12. Si vous êtes proche de Dieu, si vous comptez sur Christ, vous demandez son aide, vous faites ce que vous avez à faire, donc vous pratiquez la justice, Dieu va vous bénir, Dieu va vous aider à comprendre les choses que vous avez à comprendre. Et regardez 1 Chronique 12 et le verset 32. Voici ici nos Finlandais. 12 et le verset 32. Les ancêtres des Finlandais, c'est Issachar, dans les 12 tribus. Okay? Alors, des fils d'Issachar qui savaient discerner les temps pour comprendre ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères et leurs ordres. Alors, il prend la peine de souligner ici que la tribu d'Issachar avait cette qualité-là d'être proche de Dieu, et Dieu leur donnait d'être capable de comprendre, de discerner les temps et ce qu'il devait faire. Et c'est exactement ce qui va arriver au temps de la fin aux enfants que Dieu appelle et qui sont fidèles. Je vous cache rien, je vous en ai parlé un petit peu jusqu'à maintenant dans le sermon. On approche actuellement d'un tournant majeur dans l'histoire de la fin. Nous ne sommes pas encore entrés dans la grande détresse. Ce sont les turbulences préparatoires. Mais nous sommes proches d'un tournant qui va bouleverser la terre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quels que soient les événements qu'on a à vivre, quelles que soient les circonstances, on doit, comme je vous ai mentionné tantôt, nous appuyer sans cesse sur le Christ. C'est pas pour rien que le Christ, et je suis sûr qu'il aime ce titre, il est le rocher des siècles. Il est le rocher des siècles. Quand on s'appuie sur un rocher, moi quand j'étais tout petit, il y a un rocher que j'allais souvent, un immense rocher dans la forêt derrière chez nous, et j'aimais ça me tenir sur ce rocher-là. Ça bouge pas, mais on sent une solidité extraordinaire. C'est sur lui qu'on doit s'appuyer. Allez dans Psaume, chapitre 18, s'il vous plaît. Psaume, chapitre 18. Psaume, chapitre 18, verset 2. Regardez ce que David disait en parlant de Dieu. Et on doit avoir la même approche. Et c'est à ça que je dois vous faire penser aujourd'hui pour qu'on garde l'élan, l'enthousiasme de la fête des tabernacles et qu'on reste proche de lui à cause des événements qui s'en viennent, pour qu'on ait la force, la paix d'esprit pour passer à travers. Psaume 18, verset 2. « Je t'aime, ô Éternel, ma force! » Est-ce que vous êtes capable, dans les prières que vous faites, d'arriver à être assez spontané avec Dieu pour dire « Père, je t'aime! » Il y en a gros parmi nous qui n'ont pas été habitués même à dire à leurs parents « Je t'aime! » Plusieurs d'entre nous n'ont jamais connu ça. Ça se faisait pas dans les maisons. Mais avec Dieu, il faut dépasser ça puis arriver à dire « Père, je t'aime. Tu as fait tellement pour moi jusqu'à maintenant. Si je te connais, tu me l'as donné. Si je t'ai encore en vie, tu me l'as donné. Si je connais tes fêtes, tu me l'as donné. Si j'ai l'espoir que j'ai, tu me l'as donné. Père, je t'aime. Merci. Tout me vient de toi. Je t'aime, ô Éternel, ma force. » C'est David qui disait ça. « L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. » Dans les moments de creux de vague, de difficultés. C'est lui qui nous libère. Mon Dieu, mon rocher, il revient avec ça, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite, mon refuge. Vous savez, quand on a besoin d'être seul, quand on a besoin d'être seul avec Dieu, quand on a besoin de trouver un endroit où on se sent bien, on a besoin d'un refuge, d'un oasis. Dieu dit, je suis votre refuge, je suis l'oasis. Reportez-vous pour un dernier verset maintenant, s'il vous plaît, à Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse, chapitre 22, un très beau verset. Apocalypse, chapitre 22, on va lire les versets 6 et 7. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Toutes les paroles de la Bible sont certaines et véritables aussi. Et là, il parle particulièrement de celles concernant la fin. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange, c'est-à-dire son messager, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et Dieu le fait avec nous maintenant. Il ne faut pas juste rouvrir les yeux sur les événements de l'actualité. Il faut rouvrir notre cœur par rapport à Dieu. Et lui va se charger du restant. Et voici, je viens bientôt. C'est le Christ qui parle. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Mais vous gardez ces paroles-là, c'est pas juste le savoir. Parce que j'ai vu ça dans le passé aussi. Des gens qui étaient tellement heureux de savoir ce que la Bible disait, mais ils n'allaient pas plus loin pour plaire à Dieu, pour changer. Très heureux de savoir. Ils pouvaient citer la Bible mieux que moi je peux le faire. Mais ça, ça veut rien dire. Il y a des gens qui ont de la difficulté à citer la Bible, mais qui en vivent tellement bien. On le voit. Ça, c'est ceux que Dieu recherche. Et c'est ceux qui seront là-bas, au lieu de sécurité, en préparation. Alors, il ne faut pas être juste heureux de savoir. Oui, on apprécie de savoir, mais si on en reste là, on ne va pas nulle part. Et on n'ira pas nulle part non plus. Le savoir, en vivre, l'apprécier, le dire, agir en conséquence, chercher Dieu chaque jour et de tout cœur, même quand il y a des creux de vague. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Hein? C'est une petite phrase de l'Ancien Testament qui est tellement encourageante. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Alors écoutez, entretenez et gardez précieusement l'enthousiasme de la fête des tabernacles.